Bonjour à tous. Les droits de l'homme, une révolution sans fin, intérêt particulier contre intérêt général. Pour l'auteur de Comprendre le malheur français, la fracture actuelle n'est plus simplement sociale, elle est devenue morale. Si un an après, la déception est à la hauteur de l'espoir suscité par l'élection d'Emmanuel Macron, comment redonner du sens aux mots et à la fonction? Quelle démocratie voulons-nous? On ouvrira la discussion à partir de 12h55 avec le philosophe et historien Marcel Gaucher, rédacteur en chef de la revue Le Débat. Mais d'abord, la danse des droits de l'homme avec nos invités, le chorégraphe Didier Deschamps, directeur du Théâtre National de Chaillot, initiateur à ce titre du festival Tous Humains jusqu'au 21 décembre, et l'historien Pascal Horry qui a co-dirigé avec Pascal Blanchard Chaillot Palais de la Danse chez Somogi Éditions. Ils sont avec nous tous les deux jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
La défense des droits de l'homme ne souffre pas de pause. Parlant pour mon pays, je déclare que la France appuiera toute proposition qui visera à accroître le rôle des Nations Unies et de leurs experts afin de développer en relation avec la Commission des droits qui siège à Genève les missions d'enquête sur le terrain, veiller enfin à ce que les rapports de ces missions soient rendus publics, car l'oppression se nourrit du silence.
François Mitterrand, en 1988, on était là 40 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pascal Horry, Didier Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Signé là, en 1948, sous l'esplanade du Trocadéro, rebaptisé depuis Parvis des droits de l'homme. Le palais de Chaillot abrite aujourd'hui le musée de l'homme, un musée de la marine, une cité de l'architecture et du patrimoine, et le Théâtre national de la danse que vous dirigez, Didier Deschamps. Vous vous apprêtez à célébrer ce soir une veillée de l'humanité, marquant le 70e anniversaire de la signature de cette déclaration, mais comment allez-vous veiller?
Écoutez, le propos que nous avons, il est de donner le plateau, la parole aux artistes et d'inviter le public à regarder le geste des artistes, à écouter la parole des poètes, la parole des artistes sur le plateau. Je crois qu'il est extrêmement important que la communauté artistique, pour sa part, se saisisse d'une opportunité comme celle de cet anniversaire pour tout simplement être dans la continuité de la démarche qu'ils ont bien souvent, puisque leurs œuvres, leur démarche résonne de l'état du monde, de la situation du monde. Et ce soir, il y a à peu près 150 artistes qui vont être présents sur le plateau et qui vont justement nous adresser la manière dont ils voient le monde aujourd'hui, puisqu'il s'agit bien de parler des droits humains aujourd'hui.
Et une fois de plus, le Théâtre National de la Danse va ouvrir une fenêtre grande, ouverte vers le monde. C'est aussi fidèle à l'âme et à l'histoire de ce lieu que de lui insuffler cette dimension et cette portée internationale. Il y aura aussi juste, Didier Deschamps, une statue du plasticien congolais Freddy Tsimba, une sculpture qu'il a réalisée, qui va faire son entrée au pied du grand escalier, une sculpture réalisée à partir de douille. En 2018, que nous dit cette porteuse de vie?
Tout d'abord, c'est une œuvre absolument magnifique, don du manège de Chaillot au théâtre, qu'a créé Freddy Tsimba. Il faut savoir qu'il travaille à Kinshasa et que l'ensemble de son œuvre est constitué d'éléments qu'il trouve dans son pays sur les champs de guerre. Et donc, les douilles symbolisent ce qui a pu donner la mort et qui va se transformer en un message d'espoir adressé, comme tous les décors de Chaillot d'ailleurs, dans leur dimension humaniste, adressé au monde pour dire que seul peut-être la culture, l'éducation sont un rempart à la barbarie. Et donc cette femme sans tête, pour ne pas la spécifier, qui porte un livre fait de clés, est hautement symbolique de ce point de vue.
Le 10 décembre 1948, c'est au Palais de Chaillot que les 58 États membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptent la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Le juriste René Cassin, un des rédacteurs, le français, de cette déclaration, explique la difficulté à fédérer autour d'un texte unique, autant de sensibilités différentes.
La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, si large qu'elle ait été conçue, était une déclaration nationale. Il est important que que dans une déclaration universelle comme celle que nous venons de voter, les principes de liberté, égalité, fraternité aient été affirmés sur le plan international et, comme je le répète, universel. La seconde différence tient au ton. L'ancienne déclaration des droits de l'homme française ne faisait pas qu'aux droits fondamentaux d'ordre politique, moral, intellectuel. La déclaration universelle souligne d'une part le droit de l'homme à la vie et d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels. La déclaration universelle des droits de l'homme a des piliers plus variés que la déclaration de 89.
Et je me tourne vers l'historien Pascal Horry. 70 ans après la signature de cette déclaration, on la célèbre encore, mais sur le terrain, les principes posés par cette déclaration sont de plus en plus malmenés un peu partout dans le monde. Les droits humains sont en recul. Cette universalité qu'évoquait à l'instant René Cassin et qui a fait sa force lors de son adoption est aujourd'hui fragilisée par quoi, selon vous? Par les égoïsmes nationaux? Par la réalité du monde?
Par l'évolution historique depuis 1948, ou je dirais depuis 1945, parce que René Cassin n'est pas par hasard le grand juriste de la France libre. L'ONU à la place de la SDN, Société des Nations. Et c'est l'ONU qui s'installe à Paris pour quelques semaines, même 3 mois, en 1948, ce qui est quand même assez remarquable. Aujourd'hui, l'ONU ne quitte plus New York officiellement.
Mais parce que le siège définitif de l'ONU à New York n'est pas encore prêt pour accueillir cette toute jeune organisation en 1945.
C'est un beau symbole et ça nous permet de dire que la France a quand même joué, même modestement, géographiquement, un rôle à ce moment-là. Je signale tout de suite, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, Olivia, mais la veille du 10 décembre, elle a joué aussi un rôle en accueillant toujours dans la grande salle du théâtre du Palais de Chaillot le premier texte officiel au monde parlant du génocide. Ce qui aujourd'hui peut-être résonne encore plus à l'oreille de nos auditeurs que le texte général de Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'était un lendemain de Seconde Guerre mondiale, un lendemain de Shoah. Clairement, il y avait la nécessité de revenir de façon critique, c'est ce que René Cassin vient de dire dans l'extrait que vous avez à juste titre diffusé, sur les déclarations standards qui remontent au XVIIIe siècle, voire même fin XVIIe, le Bill of Rights anglais, la déclaration française, qui est quand même la plus complète à l'époque, sans faire de cocorico, et les différentes déclarations américaines, qui sont des déclarations des droits de l'homme d'esprit libéral, ce qui est déjà un énorme pas d'un point de vue philosophique, c'est pas de jugement de valeur, par rapport à la situation antérieure des monarchies traditionnalistes, autoritaires, etc. Et par ailleurs, du citoyen, ça c'est ce qu'ajoute effectivement la déclaration française. Ce sont des déclarations libérales et l'essentiel en est repris dans le texte de 48, à savoir ce qu'on appellera ensuite les droits civils et politiques. Mais ce que Cassin indique bien, et ça à mon avis c'est toujours d'actualité, c'est qu'on y ajoute explicitement des droits économiques, sociaux et culturels. Alors c'est quasiment une première, ça circulait un petit peu, mais là vraiment c'est gravé dans le marbre, des droits culturels, des droits à l'éducation, à l'accès à la science, à l'accès aux loisirs, à l'information, etc. Et d'autre part, il y a des explicitations beaucoup plus nettes que dans les textes antérieurs sur, par exemple, l'égalité homme-femme. C'est pour ça que l'Arabie saoudite, vous avez dit tout à l'heure, les 58 ont adopté. Non, 50 ont adopté, 8 se sont abstenus. C'est intéressant de savoir qui s'est abstenu. C'est 3 catégories. C'est l'Arabie saoudite sur la déclaration en ce qu'elle concerne l'égalité des droits homme-femme. Je ne sais pas si elle voterait encore cette déclaration aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez l'Afrique du Sud. Là, la situation a changé, mais on imagine bien pourquoi l'Afrique du Sud, qui vient juste de choisir l'apartheid, c'est tout récent, en 48, ne vote pas, mais elle s'abstient, bien sûr. Et puis les pays communistes, il y a des directions communistes, il faut quand même insister là-dessus aujourd'hui, eux aussi ont disparu, mais ils ne vont jamais accepter les textes concernant, par exemple, la liberté syndicale. Alors en quoi est-ce qu'aujourd'hui ce serait dégradé? Je dirais que, historiquement parlant, ce n'est jamais qu'un horizon. Dès le départ, cette déclaration n'a pas force de loi. Donc elle est un élément de référence pour tous les combattants des droits de l'homme élargis depuis 48. On pourrait même être plus explicite sur l'environnement, par exemple, qu'on ne l'était en 48. Et du coup, le fait qu'il y ait une Cour pénale internationale depuis 98, c'est des années en 8, c'est comme Mitterrand en 88, quand pour la première fois on commence à célébrer d'ailleurs, personne s'en occupe de cette déclaration jusqu'en 88, en termes de célébration, en France ou ailleurs. Bah effectivement, s'il y a une Cour pénale internationale, c'est grâce à la déclaration.
Alors Paris, on évoquait aussi pourquoi ce lieu. Paris, celle d'où s'envola à travers le monde la devise liberté, égalité et fraternité, ce que disait Vincent Auriol dans son discours d'ouverture de la 3e Assemblée Générale des Nations Unies le 21 septembre 1948. À Paris certes, mais pourquoi au Palais de Chaillot, Pascal Horry?
Alors déjà, la candidature française n'était qu'une candidature parmi d'autres, mais la France a fait valoir son prestige, la tradition des droits de l'homme, la personnalité de René Cassin dans le comité de rédaction, et aussi le fait que ce bâtiment, le Palais de Chaillot, était un bâtiment qui pouvait convenir à l'arrivée de milliers de délégués, de journalistes. On a même provisoirement agrandi, et c'est l'architecte qui avait construit en 1937 pour l'exposition internationale de 37 le Palais de Chaillot qu'on connaît aujourd'hui, Carlu, qui a été chargé d'agrandir provisoirement les deux ailes, faire en sorte que ça puisse accueillir encore plus de salles de commission, de salles de presse, etc. Donc tous ces arguments pragmatiques, on rejoint un argument symbolique quand même, c'était la France face à la Tour Eiffel, etc. Et d'ailleurs, l'ONU est revenue une autre fois, au début des années 50, avant que l'ONU ne s'installât définitivement à New York.
Voilà aussi par l'histoire de ce lieu, sa place acquise de notre inconscient républicain à nous, ce palais a pris toute son ampleur. Il a aussi subi, et vous l'évoquez Pascal Horry, des transformations incalculables, cette structure. Quand est-ce que le Théâtre National de la Danse, tel qu'il existe aujourd'hui, a trouver sa forme définitive, Didier Deschamps?
Alors, dans son architecture globale, j'ai envie de dire, c'est en 1937, entre 37 et 39, à l'occasion de la dernière exposition universelle. Ensuite, à l'intérieur même du théâtre, la dernière grande transformation qui a concerné la grande salle de Jean Villard s'est faite sous la direction de Jack Lang en 1972. Et puis, encore plus récemment, puisqu'il s'agit de l'année passée, nous avons complètement recréé la salle Firmin-Gémier. Mais c'est quand même le bâtiment de 37 que les visiteurs et les spectateurs traversent lorsqu'ils viennent au théâtre.
Parce que c'est un palais qui a longtemps servi, Pascal Horry, de place forte, d'outils de rayonnement, et notamment à travers les nombreuses expositions universelles à Paris, 1878.
Ce qu'on appelait le palais du Trocadéro, qui vers 1937 s'appelait désormais vulgairement le vieux Trocadéro, c'était mauvais signe, on a décidé de le détruire, mais il faut savoir qu'il est toujours présent en fantôme, parce que le palais de Chaillot que nous avons sous les yeux, il fallait que Carlu, très grand architecte, longtemps oublié que maintenant on valorise, il a été obligé de faire tout ça en 18 mois. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a conservé la structure du vieux palais et les fondations. Donc en réalité, le palais de Chaillot, c'est d'abord une sorte d'environnement superposé à une structure plus ancienne. Et avec toujours la même idée, au centre, le spectacle, et à la périphérie, les musées. Dans les deux ailes.
Voilà, on le disait, un musée de l'homme, un musée de la marine, une cité de l'architecture et le Théâtre National de la Danse, qui est quoi pour ceux qui ne connaissent pas le Palais de Chaillot, Didier Deschamps, c'est le ventre de la bête du palais.
Ouais, on peut dire que d'un point de vue spatial, il est au cœur, au centre, mais moi je ne cherche jamais à établir des suprématies ou des hiérarchies.
Il y en a pas, non, là c'est purement architecturalement parlant pour comprendre où est-ce qu'il se situe.
Oui, il se situe en réalité, ça c'est très intéressant, puisque lorsque les gens, les millions de visiteurs qui viennent prendre en photo la Tour Eiffel ou les alentours, pour la plupart ignorent qu'en dessous de leurs pieds se situe la grande salle du théâtre. C'est donc en dessous du parvis qu'a été creusé dans la colline et installé le Théâtre National.
Est-ce qu'il reste des traces aujourd'hui dans ce palais de la signature de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, Pascal Horry, des fresques, des inscriptions? Qu'est-ce qu'on en a
gardé? Des inscriptions a posteriori, à l'intérieur et également sur l'esplanade qui est devenue sous François Mitterrand, justement, parvis des droits de l'homme.
Et des libertés.
Simplement, je vérifie encore ce matin que, évidemment, tout le monde marche sur la dalle. C'est une dalle horizontale, personne ne la regarde. Il faudrait presque un dispositif qui mette l'accent sur cet événement qui est un événement à caractère mondial, quasiment philosophique. Et puis à l'intérieur, à l'entrée du foyer, vous avez plusieurs plaques. Vous avez une plaque qui rappelle le 10 décembre, une plaque qui rappelle le 9 décembre. Moi, j'insiste quand même beaucoup sur le 9 décembre quand même. C'est la première fois que le mot génocide est prononcé officiellement grâce à Raphaël Lemkin. Une deuxième plaque. Et la troisième plaque rappelle effectivement ce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'extrait, c'est-à-dire l'hommage de François Mitterrand. Donc, il y a comme ça des lieux. Je suis pas sûr que la plus grande partie du public les remarque.
Hein. Non.
Au fond, le lieu qui pourrait porter ça, c'est le musée de l'homme, qui effectivement date de 37, qui n'a ouvert qu'en 38, vous imaginez, 38 avec une farandole autour du globe terrestre au nom de la paix. Nous sommes en 38. À la fois, on peut trouver ça pathétique et en même temps, c'est presque enthousiasmant, c'est-à-dire qu'on y croyait encore et le musée de l'homme existe toujours.
À propos d'ambivalence et précisons que le musée de l'homme, lui, ouvre sa saison en droit. En parallèle, ses obsèques seront célébrées là, à la demande du général de Gaulle. Comment résonnent aujourd'hui pour vous, Pascal Horry, ces mots de Paul Valéry, inscrits en lettres d'or sur un des frontons du palais de Chaillot ? Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise. Ceci ne tient qu'à toi, ami, n'entre pas sans désir.
Vous avez bien choisi, Olivia, puisque sur les quatre inscriptions, c'est celle qui est du côté du théâtre de Chaillot vers la Tour Eiffel. Il y a quatre inscriptions. Il faut préciser d'ailleurs aux visiteurs, tous les auditeurs, que ce ne sont pas des citations de Valéry. On a payé Paul Valéry pour créer des inscriptions. C'est comme l'Académie des inscriptions et belles lettres. Hein. Mais c'était des inscriptions, quand on les analyse, qui étaient plutôt tournées vers la fonction patrimoniale, hein, l'accueil de l'art. Mais je trouve que c'est très important parce que ce que Didier Deschamps disait tout à l'heure, c'est qu'au fond, à l'heure actuelle, je parle de même de ce matin, si vous voyez ce que je veux dire dans la conjoncture actuelle, c'est du côté des artistes qu'il y a le portage de ça. Les politiques, pour diverses raisons, sont un peu en retrait.
Cette déclaration est un magnifique symbole des efforts des générations passées. À notre génération d'avoir le courage de dénoncer les incohérences du monde pour révéler ce qu'il y a de meilleur en l'humain. Voilà ce que dit Lilian Thuram dans les pages de ce beau livre, Chaillot, palais de la danse, que vous avez co-dirigé, Pascal Horry, avec Pascal Blanchard. Le rôle des artistes, effectivement, sur cette question, Didier Deschamps, il faut à la fois faire vivre l'histoire, le génie du lieu, tel que vous l'écrivez, Pascal Horry, sa fonction patrimoniale, mais aussi le propulser vers l'avenir et vers le monde d'aujourd'hui, sur cette actualité. Quelle responsabilité vous avez le sentiment, vous, de porter Didier Deschamps à la tête de cette institution ?
Mais elles sont multiples, ces responsabilités, et on les partage avec bien des personnes. La première, c'est de résister, et le terme n'est pas galvaudé, à toute forme de censure qui ne cesse de vouloir s'exprimer et nous empêcher, justement, empêcher les artistes de présenter leurs œuvres, mais aussi empêcher le public d'accéder au travail des artistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de rappeler sans cesse que les théâtres sont des lieux de rassemblement au sens joyeux, festif, mais y compris autour de sujets graves, et que les artistes, finalement, leur travail s'adresse à eux, et que ça doit être un lieu de controverse, un lieu de débat, en même temps que de fête. Ce n'est absolument pas contradictoire. La responsabilité, enfin, elle est de, à l'intérieur même des espace que nous occupons, je dirais, d'accueillir les gens avec le soin et l'attention, je dirais la fraternité, sans laquelle je crois que tout discours est vite non entendu, non valable. C'est une chose importante auquel on s'applique quotidiennement.
Pascal Horry, vous, comment vous décririez l'âme de ce lieu ? Parce que c'est quand même un palais qui a beaucoup de tempérament. Alors certains le trouveront un peu froid, un peu imposant, ce tempérament-là. Vous rappelez aussi, vous, dans cet ouvrage, les origines napoléoniennes jusqu'à la République de ce palais. Alors quel est, du coup, pour vous, aujourd'hui, ce qu'il en reste, ce qui vraiment fait vivre l'âme de ce lieu ?
Passons sur l'hypothèse de la froideur. C'était un discours dominant il y a 20-30 ans. On disait même que c'est l'architecture quasiment fasciste ou stalinienne. En fait, c'est l'architecture qu'on faisait exactement à l'époque dans toutes les démocraties. À Washington et à Londres, on construisait de la même façon. Petite remarque au passage. Maintenant, on en est revenu. Moi, je crois que ça correspond quand même à un vieux projet républicain. 1878, donc le premier palais dit du Trocadéro, et dont la structure, je répète, est là. Même quand, en faisant des travaux, on redécouvre la polychromie de l'ancien palais. Donc, il n'a pas disparu. Du tout. C'est quand même un projet d'éducation populaire. La salle du Trocadéro était encore plus grande que la salle que Didier Deschamps doit remplir le plus possible. Donc, il y avait un vrai projet qui allait avec l'installation de la République. Et en 37, c'est le Front Populaire quand même. Et bon, j'ai un peu travaillé là-dessus, je peux confirmer que le Front Populaire a gauchi l'orientation, dans tous les sens du mot gauchi, l'orientation de l'expo de 37. Il y avait un grand monument à la paix installé sur l'esplanade. Donc, il y a quand même une logique derrière tout ça, qu'on pourrait qualifier d'humanité. humaniste. Après, vous avez la présence de gens comme Jean Villard, Henri Langlois, faut pas oublier, ça a été un haut lieu de la Cinémathèque. Bon, je crois que entre le patrimoine, certes, mais aussi la création, vous avez un bel équilibre. Et le pays qui a en quelque sorte inventé la forme moderne du ministère de la Culture, qui s'appelait Affaires culturelles à partir de 1939, bon, peut être, à mon avis, content d'avoir encore, dans un lieu stratégique, puisque comme on le dit souvent, on n'y va que pour voir la Tour Eiffel, content que ça soit offert sur un plateau aux touristes. Le problème, c'est que la plupart des touristes ignorent que c'est le lieu qui les concerne tous, hein, quel que soit leur pays d'origine, de la Déclaration universelle. Il faudrait faire plus de publicité autour de cette dimension.
C'est chose faite ce mois-ci. Derrière Firmin, Gémier, premier directeur du Théâtre National Populaire en 1920, d'autres grandes figures vont se succéder là. Jean Villard, Antoine Vitesse. De son temps, le théâtre de Chaillot était une ruche, un atelier de pensée, une maison ouverte à tous les vents artistiques, raconte Laure Adler dans ce livre. Jérôme Savary aussi, George Wilson, tous ont porté cette idée d'un art élitaire pour tous. Jean Villard, en s'installant dans ces lieux, aura cette formule: c'est la plus mauvaise scène qui soit, l'édifice le plus laid, l'ensemble architectural le plus aberrant, et néanmoins c'est là qu'il va décider de creuser son nid et d'y créer un théâtre réellement populaire. Cette philosophie-là, elle n'a cessé d'influer sur l'esprit de ce lieu. Didier Deschamps, sous le parvis, la scène, on l'évoquait, cette histoire de Chaillot s'articule aujourd'hui avec celle de la danse que vous défendez. Quand ces deux mémoires ont-elles commencé à se rejoindre ?
Dès le départ. En réalité, la danse a toujours été présente au Trocadéro, à Chaillot et dans ses environs, depuis les premières expositions coloniales, puis universelles. À Chaillot même, le jour, en 1920, le 11 novembre 1920, lorsque Firmin Gémier inaugure le lieu, il y a quelques centaines de choristes, des danseurs, des comédiens qui vont justement célébrer la création du premier théâtre national populaire. Ensuite, dès que Villard prend la direction du lieu, il invite Béjart. C'est loin d'être innocent. Il y a toujours eu comme ça place à la danse. Même avant l'arrivée de...
Il y a eu un grand dialogue entre les deux, hein, entre le théâtre populaire de Villard et la danse grand public de Béjart.
Absolument.
Ça a été vraiment le premier élan. Hein.
Ouais. Absolument. Et en faisant un raccourci très grand, pourquoi aujourd'hui c'est le théâtre national de la danse ? C'est parce que parmi 5 théâtres nationaux en France, il était devenu absolument nécessaire que cet art majeur aujourd'hui dispose d'une institution comme cela.
Alors, le regard des danseurs et des chorégraphes passés sur cette scène se croise aujourd'hui encore dans le Théâtre National de la Danse, mais aussi dans ce beau livre, Chaillot, Palais de la Danse, Philippe Découfflet, Caroline Carlson, Oad Naharine, Emmanuel Gatt, Trisha Brand, Sidi Larbi Cherkaoui, Crystal Pite. On va écouter la voix d'Angelin Prejlocage, qui a présenté là-bas, notamment Les Nuits en 2014 et ses nouvelles pièces courtes en 2017-2018.
Moi, j'ai plutôt l'impression que je ne sais pas grand-chose et que j'ai trouvé avec la danse une façon de connaître le monde, en fait, et d'apprendre le monde. En fait, la danse m'apprend le monde. Et c'est pour ça que j'aime tant la danse et qu'elle ne me quittera jamais, je crois. Et je ne la quitterai jamais. Parce que je crois que l'idée de la danse, c'est que c'était le corps. Et que le corps, tant qu'il vit, il peut porter une danse. Même légère, même simple, même dépouillée à l'extrême, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un filament. Mais même ce filament reste quelque chose de beau.
La danse m'apprend le monde, dit-il. Il est vraiment en phase avec cette vision que vous défendez aujourd'hui, Didier Deschamps, d'une danse internationale ouverte au monde et à l'art en général. Si on en revient à la Déclaration des droits de l'homme universelle, est-ce que la danse reste pour vous justement une expression universelle ?
Absolument. Écoutez, j'ai envie de rappeler que bien souvent, la danse, comme la musique ou d'autres formes artistiques, sont interdites. C'est interdit par les extrémistes et islamistes, etc., dans bien des religions. Là, la tradition judéo-chrétienne s'est toujours beaucoup méfiée du corps. Pourquoi ? Parce que, par définition, le corps appartient à tout le monde et le corps est profondément politique. Donc, je crois que la danse, qui est l'expression du corps, effectivement parle à tout le monde. Même s'il y a des langages, il y a des langues différentes d'un continent à l'autre, il y a immédiatement quelque chose qui se communique. Et c'est ça que, bien souvent, on veut essayer de faire taire.
Pour terminer, messieurs, sur l'importante relation aussi que Chaillot a pu tisser, construire avec son public, les valeurs aussi que cette institution veut transmettre à son public, je vous propose d'écouter les mots de Caroline Carlson, qui revient sur une rencontre qu'elle avait eue avec le public de Chaillot en 2014.
Samedi, il a été organisé une formidable rencontre avec le public, avec Alejandro Jodorowsky. Et j'ai tenu un cours sur classe, ouvert au public, et le public a beaucoup apprécié. Parce que j'ai demandé au public quelles étaient leurs idées d'improvisation. Et donc, le public a fait des propositions et je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Donc, il y avait là-dedans beaucoup de spontanéité et ça a été très chouette, un moment formidable. Et le public riait, frappait dans les mains. Et puis, à un moment, quelqu'un a dit, est-ce que vous pouvez travailler avec les animaux? Est-ce que vous pouvez faire le chat? Et il y a un de mes danseurs, c'est une danseuse en réalité, a fait le chat et à ce moment-là, standing ovation. Tout le monde était debout et exultait. C'est très intéressant parce que j'aime bien l'élément de surprise. Moi, je travaille beaucoup sur la spontanéité. Je pense être quelqu'un de très spontané. C'est pourquoi le public aime bien mes spectacles parce qu'ils ne savent pas toujours à quoi s'attendre. Et j'aime bien travailler avec les gens. La compagnie et moi, nous faisons famille.
Un spectateur citoyen, des artistes, chorégraphes, danseurs qui mettent en place et présentent des pièces aux résonances très politiques. Pascal Horry, quel public s'est inventé Chaillot pour reprendre le mot de Farid Abdelwahab?
Déjà, le projet de Gémier et de Villard était un peu volontariste en direction du public. C'est là que se sont testées les grandes tentatives d'établir des liens, en particulier avec la classe ouvrière, ce qui n'était pas du tout gagné. Et puis plus largement, c'est quand même un lieu, il est très bien que l'on parle du théâtre de Chaillot, puisque c'est ce soir-là que ça va se passer, mais c'est également un lieu très fréquenté en termes de patrimoine, et c'est important qu'il y ait aussi une réappropriation populaire du patrimoine. Le Musée de l'Homme en est un très bel exemple.
Didier Deschamps, un dernier mot sur ce public que vous cherchez à faire venir?
Le public qu'on cherche à faire venir, on cherche surtout à ce qu'il soit le plus diversifié possible. Diversifié quant à ses origines sociales, géographiques, parce que nous croyons à la beauté, à la richesse de la diversité, justement. Et il serait extrêmement fâcheux que seule une classe ou une origine ne fréquente le théâtre, les théâtres en général.
C'est-à-dire un effort particulier fait sur la question des tarifs et des prix?
Les tarifs sont un des éléments de réponse, bien évidemment, de la possibilité d'accéder au théâtre, mais bien souvent les freins sont aussi ailleurs. Il ne faut pas les négliger.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire dans tout simplement l'éducation, dans la représentation, dans la symbolique qu'il peut parfois persister et qui s'attache malheureusement à certains espaces.
Le droit à l'éducation figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Merci beaucoup Pascal Horry, merci à vous Didier Deschamps. Mercredi autour de cette grande table, nous recevrons la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez qui, de Chaillot, où elle a présenté sa pièce Furia, se rendra au 104 à Paris. On poursuivra donc cette discussion autour de la danse et les combats qu'on peut mener à travers elle. À suivre, l'invité de la grande table des idées, le philosophe Marcel Gaucher.